prix, la rubrique des lauréats des académies et de l'Institut.
Bonjour, je m'appelle Delphine Ackermann. Je suis historienne et maître de conférences en histoire grecque à l'Université de Poitiers. Je suis lauréate du prix Raymond et Yvonne Lantier, attribué par l'Académie des inscriptions et belles-lettres pour mon livre intitulé « Une micro-histoire d'Athènes, le dème d'Aixionnet dans l'Antiquité », paru en 2018 aux éditions de l'École française d'Athènes. J'ai également reçu cette année le prix de l'Association des études grecques pour ce même ouvrage. Ce livre est le fruit de 5 années de recherche menées dans le cadre d'une thèse de doctorat soutenue en 2010. Le titre, alors comme souvent pour les livres issus de thèses, paraît obscur. Qu'est-ce que le dème d'Aixionnet ? Qu'est-ce que la micro-histoire ? Alors pour expliquer cela, il faut nous transporter à Athènes dans l'Antiquité, il y a 2500 ans. Cette cité se distingue de ses semblables par sa très grande taille. Son territoire, qu'on appelle l'Attique, était l'un des plus grands de Grèce. La gestion d'un tel espace ne pouvait se faire uniquement à partir du centre, la ville d'Athènes. Il fallait relayer l'autorité à des sous-groupes répartis dans tout le territoire. C'est ainsi qu'à l'extrême fin du VIe siècle avant Jésus-Christ, des circonscriptions administratives ont été créées sur la base des petites villes, villages ou hameaux déjà existants. C'est ce qu'on appelle les dèmes, que l'on compare assez volontiers aux communes en France aujourd'hui, même si cela est anachronique. Les dèmes, il faut bien le réaliser, jouaient un rôle essentiel dans la vie politique, administrative et institutionnelle d'Athènes. Je ne prendrai qu'un exemple. Tout citoyen devait être inscrit dans un dème pour jouir de ses droits. Donc chaque dème tenait à jour sa liste de citoyens en incluant les nouveaux membres et en excluant les membres illégitimes. Ce sont donc largement les dèmes qui faisaient et défaisaient les citoyens. Par ailleurs, les dèmes jouissaient d'une remarquable autonomie par rapport à la cité. Ils avaient leur propre assemblée, où étaient mis au vote les projets concernant la communauté. Ils géraient leur propre budget, célébraient leurs fêtes, élisaient leurs magistrats. Alors, je fais une petite parenthèse, je précise que pour les historiens de l'Antiquité, les magistrats sont des citoyens qui assumaient une charge pour l'État, une activité qui n'était pas rémunérée, qui était en principe annuelle. Alors trop souvent, on imagine la vie du citoyen athénien comme orientée vers une carrière au niveau de la cité. Mais c'est oublier que la vie politique des dèmes était tout aussi foisonnante. En outre, le dème définit pour une grande part l'identité du citoyen. En effet, le citoyen indique son dème d'appartenance dans des tas de circonstances, et notamment sur les monuments funéraires. C'est dans son dème également que se trouvent les cultes ancestraux, les tombes familiales, les terres patrimoniales, et plusieurs passages de la littérature antique montrent l'attachement du citoyen pour son dème, qui est pour lui une sorte de cité en miniature. Alors dans mes recherches, je me suis concentrée sur un dème nommé Aixionnet, qui est situé à l'emplacement de la commune moderne de Glyphada. Nous sommes à une quinzaine de kilomètres au sud d'Athènes. C'était l'un des dèmes les plus peuplés. J'ai pu estimer la population de ces ressortissants à environ 600 personnes au minimum sur un territoire mesurant environ 25 km². Alors cela paraît peu, mais c'est déjà beaucoup selon les normes antiques puisque cela fait de ce dème l'équivalent d'une cité de taille moyenne. Alors pourquoi consacrer 5 années de recherche à un dème ? Eh bien parce que les dèmes constituent un observatoire privilégié pour l'étude des sociétés grecques antiques. Pour peu que nous disposions de la documentation suffisante, cette petite échelle représentée par les dèmes donne la possibilité à l'historien de pratiquer la micro-histoire, c'est-à-dire observer les sociétés antiques à la loupe et non au télescope. L'étude des microcosmes permet en effet d'appréhender les aspects les plus divers de la vie quotidienne de leurs habitants. Quels dieux vénéraient-ils ? Comment géraient-ils leurs affaires communes ? Se déplaçaient-ils souvent ou restaient-ils plutôt dans leur dème d'origine ? Y avait-il à l'inverse de nombreuses personnes non démotes, donc non originaires du dème, installées dans le dème ? Comment s'organisait la topographie du lieu ? Ce sont autant de questions auxquelles j'ai tenté de répondre. Mais on pourrait se dire, étudier ces microcosmes, n'est-ce pas travailler avec des œillères finalement ? Eh bien non, puisque ces microcosmes fonctionnent en symbiose avec le monde qui les entoure. Étudier indemne signifie donc pas s'enfermer dans un espace géographique étroit, mais toujours mettre en relation ce petit monde avec les autres organismes de la vie sociale et politique athénienne, parfois même avec le reste du monde grec. Ainsi, l'analyse des documents d'actionnés m'a souvent donné l'occasion d'éclairer certains sujets qui concernent Athènes dans son ensemble ou plus généralement la Grèce. Pour ne prendre que quelques exemples, ainsi la manière dont se pratiquait le prêt à intérêt entre particuliers, ou encore comment on finançait les concours de théâtre, ou comment on gérait les pâturages possédés en commun, ou comment encore on rémunérait les prêtres. Maintenant, pourquoi avoir choisi Aixionnet parmi les quelques 140 dèmes qui existaient en Attique ? Trois raisons majeures expliquent le choix de ce dème. Premièrement, les sources sont suffisamment abondantes pour permettre une étude de type micro-historique. Aixionnet est en effet l'un des dèmes les mieux documentés d'un point de vue épigraphique, donc du point de vue des inscriptions gravées sur la pierre, surtout dans la catégorie des inscriptions officielles du dème. La plupart de ces inscriptions ont été publiées déjà anciennement, il y a plus d'un siècle, et elles restent globalement assez peu discutées, alors que les informations qu'elles distillent sont d'une richesse exceptionnelle et pas seulement pour l'histoire locale. C'est pourquoi j'ai placé ces inscriptions au cœur de mon étude. Deuxième raison qui explique le choix du dème d'Aixionnet, c'est le seul dème aussi bien documenté à être ordinaire. En effet, seuls deux autres dèmes ont fourni plus de sources encore, les dèmes d'Éleusis et de Ramnonte, mais ce sont des dèmes atypiques à bien des égards. Ils rayonnent par la présence de cultes et de sanctuaires dont l'importance dépasse largement la cité d'Athènes. Ils abritent également des garnisons de soldats en faction. Donc ce sont des dèmes tout à fait atypiques. Alors que pour le dème d'Aixionnet, c'est un dème qui ne se distingue pas particulièrement des autres, que l'on peut donc considérer comme ordinaire, qui peut être pour la première fois donc étudié d'aussi près que les dèmes exceptionnels dont je viens de parler. Troisième raison enfin, c'était un dème méconnu jusqu'à présent. Aucune étude n'avait rassemblé jusque-là les sources le concernant de manière critique et autant que faire se peut exhaustive. Alors dans le but de parvenir à une meilleure connaissance de ce que pouvait être un dème athénien et la vie quotidienne des gens qui le peuplaient, j'ai exploité toute la documentation disponible, en premier lieu les inscriptions. Tous les documents épigraphiques trouvés sur le territoire du dème ont été pris en compte dans mon livre. J'ai également intégré dans mon corpus les inscriptions découvertes hors du territoire du dème et mentionnant des Aixionéens, ceci pour étudier notamment les mobilités de cette population. Dans la mesure du possible, j'ai pris le soin d'examiner la plupart des pierres inscrites dans les musées d'Athènes, ce qui donc a impliqué plusieurs séjours sur place. Il est important en effet pour l'épigraphiste, le spécialiste donc des inscriptions gravées sur pierre, d'examiner l'original, parce qu'un nouveau regard permet parfois d'améliorer la lecture et la compréhension du texte. Pour ce qui est des sources littéraires, elles sont très peu nombreuses en revanche, et tardives dans leur grande majorité, donc par tardive, j'entends l'époque byzantine. Les dèmes ont en effet rarement suscité l'intérêt des auteurs classiques, auteurs qui s'adressaient à un public panhellénique qui était assez peu porté sur l'histoire locale. Les sources archéologiques sont essentielles. Hélas, le dème n'a jamais fait l'objet de fouilles extensives. Toute la zone a souffert de la frénésie immobilière qui s'est emparée de la région dès les années 1920, avant qu'une intervention archéologique ne soit possible. Les fouilles actuelles se font dans des conditions difficiles. Les archéologues grecs travaillent dans l'urgence, dans un contexte qui est totalement urbanisé. Actuellement, il ne reste presque aucun vestige antique visible à Glyphada. C'est pourquoi j'ai travaillé surtout à travers les rapports de fouilles. J'ai cependant effectué quelques excursions sur place qui m'ont permis de préciser la carte des vestiges archéologiques du dème. Dans mon enquête, j'ai également eu recours aux récits de voyageurs des 17e, 18e et 19e siècles, ceci pour plusieurs raisons. Premièrement, ils sont les découvreurs de la plupart des inscriptions de mon corpus. Deuxièmement, ils donnent une image de la région de Glyphada telle qu'on ne la verra plus jamais. Ils ont parcouru le territoire avant la grande vague de construction moderne et ils ont repéré des vestiges en surface dont on a perdu tout espoir de retrouver la trace. Enfin, ils ont joué un rôle prépondérant dans l'histoire de la localisation du dème parce qu'ils se sont particulièrement attachés à ces questions de topographie. Pour ce qui est du cadre chronologique, je me suis concentrée tout naturellement sur la période pour laquelle les sources permettent d'étudier le système d'Édème, donc soit entre la toute fin du 6e siècle avant Jésus-Christ et le 3e siècle après Jésus-Christ. Alors bien entendu, je n'ai pas ignoré les périodes qui précèdent et qui suivent dans la mesure où elles permettaient d'éclairer ma recherche. Pour ce qui est des résultats, maintenant, j'ai pu établir une nouvelle carte archéologique du Dème qui lève le voile sur l'apparence de cette petite ville antique avec des zones funéraires, des zones résidentielles, des espaces qui ont accueilli des activités agricoles, artisanales, commerciales, religieuses. Toutes ces zones qui sont remarquablement entrelacées et reliées par un réseau de routes assez dense. Quatre points névralgiques de la communauté d'Aïxionnais se dessinent également. Le sanctuaire de la déesse principale, nommée Hébé, qui était la déesse de la jeunesse. Le théâtre, l'agora et enfin la zone portuaire. Comment vivait-on au quotidien à Aïxionnais? C'était la question principale que je m'étais posée donc dans cette étude. Eh bien, pour le résumer, d'un point de vue économique, l'agriculture occupait une grande partie des démotes. La terre d'Aïxionnais était pourtant mince, aride et caillouteuse, donc était beaucoup plus adaptée à la culture de la vigne et de l'olivier qu'aux céréales. Cependant, la céréaliculture était pratiquée par les Aïxionnéens. Ils n'ont reculé devant aucune difficulté pour aménager des surfaces cultivables, par exemple en construisant des terrasses à flanc de montagne. L'habitant d'Aïxionnais s'adonne également à l'élevage et pour les besoins de la pâture, il pouvait utiliser les pâturages communs, donc possédés en commun par les démotes, moyennant le paiement d'une taxe. Certains habitants du Dème produisaient et commercialisaient des denrées qu'on peut qualifier de luxe, à savoir le miel et le rouget, donc une espèce de poisson particulièrement prisé et jusque bien au-delà des frontières de l'Attique. Les activités artisanales sont pour le moment assez mal documentées, en revanche, mais on peut citer tout de même la production de briques, l'utilisation du rocher naturel comme carrière de pierre et l'obtention de sel par évaporation de l'eau de mer. Enfin, on constate que les démotes se sont engagés dans des opérations de prêt à intérêt sur la garantie d'une hypothèque, parfois en dehors du dème, en recevant ou en mettant en gage des terrains ou des maisons. Le Dème lui-même avait mis en place plusieurs sources de revenus. Une taxe sur l'utilisation des pâturages, dont j'ai déjà parlé, la location de terrains publics, le prêt à intérêt. Les dépenses, quant à elles, servaient essentiellement à financer les activités religieuses, comme l'achat des victimes sacrificielles, la rémunération des prêtres, l'organisation de concours de théâtre, par exemple, pour honorer le dieu Dionysos, l'entretien des sanctuaires, etc. Donc l'agriculture constituait l'activité économique dominante et cela se reflète nettement dans le panthéon du Dème. En effet, en bonne place figurent les dieux agraires par excellence que sont Déméter et Dionysos. De manière plus surprenante, les dieux qui président à la jeunesse et qui sont liés au cercle du héros Héraclès sont particulièrement importants à Aïxionnais. Hébé, la déesse de la jeunesse, était la divinité principale. Elle était vénérée annuellement par le Dème, entouré d'Alcmène, qui était la mère d'Héraclès, et des Héraclides, qui sont les descendants du héros. Il y a d'autres héros encore vénérés par le Dème. D'une manière générale, les héros sont très nombreux, très présents dans les Dèmes athéniens. La plupart, pour nous, sont anonymes ou mal connus. C'est le cas, par exemple, de l'Archégète, littéralement le fondateur, donc sous-entendu du Dème, dont on ignore le nom véritable. Une autre divinité encore pleine de secrets est celle qui est nommée dans nos textes la déesse vénérable ou redoutable, Agnetheos en grec, qui présidait peut-être à des cérémonies de type mystère, c'est-à-dire destinées à assurer une vie heureuse aux mortels dans l'au-delà. Les Aïxionnéens consacraient une bonne partie de leur temps aux activités économiques et religieuses, mais également à la vie politique locale. On constate un grand dynamisme dans ce domaine, dans la seconde moitié du 4e siècle avant Jésus-Christ particulièrement. C'est la date de presque tous les documents officiels du Dème parvenus jusqu'à nous. On a ainsi un bon nombre de décrets qui honorent des individus, des Aïxionnéens surtout, qui ont dépensé de l'argent lors du concours de théâtre des Dionysies ou qui ont bien rempli leurs devoirs de magistrat. Certaines de ces magistratures, d'ailleurs, n'étaient pour le moment pas attestées dans un dème. Ainsi, la magistrature des sophronistes, dans lesquelles je verrais des magistrats chargés de fonctions de police lors de la fête nocturne de la jeunesse. Autres magistrats qui n'étaient pas attestés pour le moment dans les dèmes, les syndicoi, qui sont des assistants du chef du dème lors d'affaires judiciaires. Les Desmottes ont aussi pris des décisions ensemble sur la location de leur domaine et la fréquentation de leur pâturage, la manière dont leurs prêtres devaient être rémunérés. Et ils étaient en outre appelés chaque année à se prononcer sur les jeunes fils d'Aixionéens candidats à l'inscription sur le registre du DEM pour obtenir donc la citoyenneté. Les Desmottes devaient également discuter ensemble, se mettre d'accord pour organiser certaines fêtes, comme celle d'Hébé, donc la déesse de la jeunesse, ou les Dionysies, pour nommer leurs magistrats également, ou recevoir les comptes des magistrats qui sortaient de charge. On apprend même que l'assemblée du DEM pouvait fonctionner comme un tribunal arbitral en cas de litige, ce qu'on ignorait jusque-là. Comme on pouvait s'y attendre, la plupart des inscriptions officielles du DEM concernent les affaires locales, mais le DEM n'était pas uniquement centré sur lui-même. Ainsi, on a une inscription dans laquelle on voit que le DEM honore un non-aïcionéen, appelé Démétrios de Phalère, qui a gouverné la cité d'Athènes entre 317 et 307 avant Jésus-Christ. Un tel décret n'était probablement pas unique. D'autres DEM, suivant sans doute l'exemple de la cité, ont dû agir de même, mais l'inscription d'Aixionée est le seul décret à témoigner de ce phénomène qui devait pourtant être de large ampleur. Parallèlement, mes études de prosopographie, donc de carrière, de profil d'individus, ont fait ressortir la présence importante des Aixionéens dans la vie politique de la cité, une participation qui a probablement été favorisée par la proximité du DEM par rapport à la ville même d'Athènes, environ une quinzaine de kilomètres donc. Avoir sa résidence principale à Aixionée n'empêchait pas un Démote de participer aux délibérations des assemblées civiques et aux tribunaux. L'étude des stèles funéraires montre elle aussi une société en mouvement, avec de nombreux mariages en dehors du DEM, des Aixionéens installés en ville ou au Pirée, donc le port principal d'Athènes, qui était les centres donc, de la vie politique et économique de la cité, des Aixionéens qui possédaient des terrains également sur des territoires outre-mer. A l'inverse, on distingue que peu de non-aïcionéens sur le territoire du DEM. Donc l'attractivité du DEM pour les non-démotes semble avoir été faible, mais il ne faut pas sous-estimer la présence temporaire de non-aïcionéens dans le DEM, pour des raisons commerciales par exemple. Présence temporaire qui est beaucoup plus difficile à saisir dans nos sources. La même prudence est de mise pour les démotes eux-mêmes. Beaucoup d'entre eux ne vivaient pas à Aixionée, mais cela ne veut pas dire qu'ils n'y étaient pas attachés et qu'ils ne revenaient pas régulièrement. La réalité de la vie des Aixionéens nous apparaît donc dans toute sa complexité, avec d'un côté des démotes attachés à leur DEM, qui possèdent des terres, y participent aux affaires locales, s'y marient, y meurent, et d'autres qui ont choisi la voie de la migration, principalement vers la ville d'Athènes, d'autres enfin, et c'était peut-être la majorité, qui participaient à la fois à la vie locale et à la vie civique, ce que rendait possible la proximité géographique entre le DEM et la ville. Alors je souhaite que de futures recherches continuent d'explorer ces petites communautés humaines de manière à ce qu'un jour on puisse mettre en réseau ces micro-histoires afin de rendre avec le plus de réalisme possible la vie passionnante, complexe, très variée des anciens Athéniens.